Alors, c'est peu de dire que nous vivons tous des temps incertains. Je crois que là-dessus, il n'y a rien à dire. Et que notre attention collective est plutôt tendue vers demain, dans l'attente. L'attente de la fin de la crise, surtout. C'est un sujet qu'on a déjà abordé avec les uns et les autres ce matin. Quand on pourra reprendre, quand tout ça sera fini, quand on pourra réouvrir. Et c'est une attente qui est bien légitime. Cependant, à trop attendre demain, ne risque-t-on pas de négliger aussi les appels que Dieu nous adresse aujourd'hui ? Pierre a évoqué cette notion d'appel, d'appel à entendre, de parole à recevoir. Et il est frappant de constater en effet que dans la parole de Dieu, eh bien, nous sont présentés de nombreux personnages qui reçoivent précisément un appel, une parole de Dieu, dans des temps d'entre-deux, des temps dans lesquels ils ne savent pas quel chemin prendre, souvent des temps de désert, désert physique ou désert intérieur, ou souvent les deux en même temps. Et ce sont dans ces entre-deux que des paroles importantes pour eux, retentissent, un nouvel appel, une nouvelle direction. Et c'est le cas notamment de Moïse, et je voudrais nous inviter à nous laisser inspirer par le récit de son appel en Exode 3. Alors un mot de contexte, même si c'est un passage connu, replongeons-nous un instant dans la situation de Moïse au moment où il reçoit cet appel. Au moment où Dieu va venir à sa rencontre, Moïse est lui aussi précisément dans le désert et vraiment au propre comme au figuré. Le texte nous dit, 3.1, « Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, quelque part dans le désert, c'est même pas précis, non loin du mont Horeb, ce mont Sinaï, où plus tard il recevra la révélation des 10 commandements de l'Éternel. » Au moment où l'histoire que nous allons méditer se passe, Moïse n'a pas encore rencontré Dieu. Quelle pensée agite son esprit alors qu'il se tient là, près des bêtes ? Peut-être une question, qu'est-ce que je fais là ? Parce qu'il n'a pas toujours été berger, Moïse, nous connaissons son histoire. Ses parents, forcés de l'abandonner sur le Nil, l'adoption par la fille de Pharaon. Cet homme qui a été élevé comme un prince égyptien et puis qui a pris peu à peu conscience de la souffrance, de son appartenance au peuple hébreu et de la souffrance de ce peuple. Cet homme chez qui est monté peu à peu le désir de venir en aide à ce peuple. Ça va être important dans le passage qu'on va lire. Et donc, poussé par ça, très sûr de lui, il est passé à l'action, il a tué un Égyptien. Il pensait alors obtenir la reconnaissance des siens, et au contraire, il a été rejeté, il a dû fuir, et le voilà. Le voilà des années après, seul dans ce désert où il a tout perdu, sa vie royale, son lien avec son peuple, et il garde des moutons qui ne sont même pas à lui. Où cela va-t-il le mener ? Que va-t-il faire de sa vie ? De tout ce qu'il a appris, de tout ce qu'il est ? Je crois, on peut imaginer, en tout cas, même si le texte est sobre, que dans son désert, Moïse tourne tout ça dans son cœur, pour prendre l'expression biblique. Mais dans le désert, quelqu'un d'autre est là. C'est le Dieu de l'Alliance. Et ce Dieu va venir à sa rencontre. Dans cet événement fondateur, à la fois pour l'histoire de la foi, l'histoire du salut, et puis pour la vie de Moïse, il y a un appel qui retentit. Dieu place un buisson ardent sur la route de cet homme pour le pousser à se détourner et ouvrir ses oreilles aussi à une parole de révélation qui va lui être accordée. Et c'est dans ce maintenant de l'entre-deux, de l'incertitude, que Dieu le rejoint et lui donne cette parole d'envoi. Et c'est une parole qui non seulement vient de l'extérieur vers lui, mais qui monte aussi en lui parce qu'elle va toucher quelque chose de très profond dans le cœur de Moïse. Et ce sont ces deux mouvements que je voudrais méditer avec vous. On voit comment d'abord, effectivement, Dieu appelle Moïse, il l'attire, j'ai envie de dire, avec ce buisson ardent au milieu duquel se tient l'ange de l'Éternel. Un signe donc placé sur sa route, mais un signe qui n'impose rien, puisqu'il faut que Moïse décide de faire un détour. Il dit « Je veux aller voir ». Une invitation qui ne s'impose pas. Et je crois que quand Dieu nous appelle, il fait ainsi appel à notre liberté aussi, et notre désir de savoir, de nous approcher. Il va placer sur notre route des personnes, des événements, des paroles qui vont nous interpeller. Mais c'est à nous cependant d'être curieux, de vouloir, de pousser plus loin, de chercher. Et donc Moïse s'approche. Il reçoit alors ces paroles par lesquelles, et le passage est bien plus long bien sûr, dans ces paroles totales, Dieu va se révéler, va dire quelque chose de lui-même, tout en restant assez mystérieux. Il va se révéler comme celui qui est, on connaît ce passage. Mais ce que l'Éternel dévoile de lui-même, dans ces quelques versets, ramène aussi Moïse à sa propre histoire. Dieu se révèle comme le Dieu de l'Alliance dont Moïse se croyait exclu. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Un Dieu fidèle, nous l'avons chanté, celui qui est le Dieu de l'Alliance. Et au-delà du signe étonnant du buisson, qui est le, presque envie de dire l'appât ici en tout cas, qui est très fort, Moïse reçoit alors cet ordre de mission, « Vas-y, je t'envoie pour délivrer mon peuple. » On peut espérer que la volonté de Dieu pour nous, le chemin, la suite de notre route, se révèle à travers des buissons ardents sur notre route. Parfois, et ça peut être très culturel aussi dans les milieux évangéliques, on peut guetter les signes, guetter les coïncidences, guetter ce qui dépasse, ce qui vient vers nous, qui relèverait de l'ordre de l'extraordinaire. Et pourquoi pas, oui, Dieu est là, bien sûr. Il peut parler comme ça. Mais ultimement, c'est quand même ici, à travers sa parole, sa révélation, que l'appel est adressé. Je crois que ça nous ramène, nous qui sommes si souvent, et c'est peut-être votre cas, dans des déserts, dans cette attente d'une parole de Dieu qui nous envoie, qui nous montre la suite, ça nous ramène à l'écoute première de la parole de Dieu, de cette révélation de Dieu en Jésus-Christ, par lequel il nous parle. C'est là, j'ai envie de dire, excusez-moi le parallèle, le buisson ardent vers lequel nous sommes appelés à nous approcher. C'est du milieu de sa parole que Dieu nous parle. Du milieu de ce livre d'apparence banale, qu'on pourrait ne pas remarquer comme ce buisson du désert, et que l'Esprit peut transformer en lieu de révélation pour nous. Et je lisais récemment ces paroles de quelqu'un qui disait « L'écoute de la parole de Dieu et l'écho qu'elle éveille dans notre cœur et la réponse de la prière qui en jaillit, tout cela permet que se crée entre Dieu et chacun des croyants un véritable espace d'intimité, un lieu saint, un lieu de rencontre. L'écho de la parole en nous, lorsque nous l'écoutons, dans la prière, que nous tendons l'oreille de notre cœur, de notre intelligence, crée un espace d'intimité entre Dieu et nous. Je trouve que c'est un peu ce qui se passe ici. Moïse s'approche d'un lieu saint. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de Dieu, de recevoir sa parole. Et nous aussi, nous sommes en présence du Dieu trois fois saint, devant lequel nous ne pouvons pas tenir à cause de notre péché. Mais la grâce, dans sa grâce, il nous invite à nous approcher de sa parole. Et je crois que c'est beau aussi de se redire, hein, quand on approche le texte biblique, que c'est une grâce de pouvoir y accéder, de pouvoir entendre quelque chose de Dieu lorsque nous ouvrons nos oreilles, et que nous sommes invités à le faire. Alors saisissons-nous de ce privilège, parce que c'est là que Dieu va nous montrer l'appel qu'il a pour nous, un appel qui nous rejoint. Et je crois que c'est le deuxième mouvement dans ce texte. L'appel de Dieu pour Moïse lui est adressé par cette voix qui monte du buisson, mais il rejoint quelque chose qui montait déjà dans le cœur de Moïse et que Dieu avait préparé. Parce que cet appel à aller délivrer le peuple d'Israël, à en devenir le libérateur, le conducteur, j'ai essayé d'éviter le mot leader suite à une discussion avec Pierre hier, je vous avoue. Cet appel-là est déjà présent dans le cœur de Moïse. Alors, il semble que lorsque Moïse reçoit ces paroles, ce soit surtout la conscience de ses propres faiblesses qui soit là. Et on connaît la suite. Moïse va dire, mais qui suis-je? Au verset 11. Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Et il va mettre en avant ses difficultés pour s'exprimer. Et là aussi, c'est son histoire qui est rejointe par Dieu. Qui suis-je? Pour cet homme qui ne sait plus qui il est, est-il égyptien, est-il hébreu, est-il un berger ou un prince? La question est lourde. Et peut-être que pour nous, c'est aussi une question. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? J'ai une histoire, j'ai reçu des choses, et qu'est-ce que je fais avec tout ça dans ma vie, dans ce contexte? Et puis l'objection de Moïse est fondée en plus. Qui suis-je? Est-ce qu'il n'est pas un meurtrier en fuite? Oui. Est-ce qu'il n'est pas quelqu'un qui est gêné dans ses rapports aux autres par ses difficultés de parole, par un fort bégaiement? Oui. Est-ce qu'il n'est pas quelqu'un qui doute de sa propre identité? Oui. Et pourtant, Dieu lui dit « Maintenant, vas-y, tel que tu es. » J'ai envie de dire que ce doute qu'exprime Moïse devant l'appel de Dieu, c'est plutôt un bon signe. Sans doute que, ou peut-être plutôt que le Moïse d'avant, celui qui était prince, sûr de lui, aurait moins hésité, serait senti enfin reconnu par Dieu, qui avait vu en lui toutes ses richesses. Mais il serait bien sûr parti en comptant sur lui-même, en se basant sur cet orgueil que nous connaissons bien et qui nous détourne de la vraie dépendance, de la véritable foi, cet orgueil avec lequel nous luttons. Et ce chemin de la grâce, je crois que c'est ce chemin qui nous fait passer par des déserts pour que nous découvrions, appelés non pas pour ce que nous sommes capables de faire, mais appelés par grâce. Au nom simplement de l'amour de Dieu pour nous, appelé sur les bases du mérite acquis par Christ pour nous, appelé non pas pour ce que nous sommes en mesure de faire, mais pour ce que Dieu va faire en nous et avec nous. Et donc le côté surnaturel de la révélation dans ce passage, le puissant ardent, je crois, ne doit pas masquer le fait que l'appel de Moïse sort vraiment de très profond, libérer son peuple. Mais c'est ce qu'il désire depuis toujours. C'est ce qu'il a en lui depuis ce jour où il a tué cet Égyptien, où il a voulu faire quelque chose. Parce que Moïse est habité par un désir de justice. Il est celui qui a pris la défense des femmes contre un groupe de bergers. C'est là qu'il a rencontré sa femme. Il est habité par ça. Il veut faire quelque chose. Mais quoi ? Et la suite montre que Moïse a été préparé depuis toujours par Dieu pour cette mission. Il a reçu, je ne vais pas encore refaire tout son curriculum vitae, mais quand même prendre conscience que Moïse a reçu une des meilleures éducations de l'époque, sans doute, à la cour du Pharaon. C'est quelqu'un de cultivé, qui sait voir loin, qui a appris à diriger les hommes. Et tout ça, tout d'un coup, va être mis en perspective par un appel qui vient de Dieu et qui lui montre vraiment qui il est. Et ainsi, la volonté de Dieu pour nous, encore une fois, n'est pas étrange ou étrangère à notre vie. Elle n'est pas forcément à chercher loin de nous, dans des idées qu'on pourrait nous donner, dans des modèles, même si tout ça, évidemment, c'est stimulant, c'est beau de s'inspirer de ce qui se passe autour de nous. Mais que ça soit pour une communauté, ou pour notre vie, je crois que ce passage nous invite à tendre l'oreille à la fois à ce que Dieu nous dit de nous, aux appels qu'il nous adresse, et aussi à ce qui est en nous, et que son appel va venir réveiller. Et si Dieu nous interpelle à travers des événements, des rencontres, des paroles, eh bien, écoutons aussi ce que ça fait en nous, et prenons-le au sérieux. Non pas pour suivre, évidemment, nos envies, sans réfléchir, mais pour entendre aussi cet écho, parce qu'il y a quelque chose là qui vibre. Et en répondant à son appel, pas après pas, comme Moïse, dans la vérité, sans rien cacher de nos doutes au Seigneur, de nos difficultés, et le psaume 25 l'a très bien, nous a donné des mots pour le dire, eh bien, en répondant, nous entrons dans un chemin qui est non seulement un chemin d'obéissance, mais je le crois un chemin de restauration de notre identité véritable. Moïse va devenir enfin celui qu'il est profondément. Il devient l'homme que Dieu avait prévu de façonner. Il deviendra l'homme le plus humble qui ait existé, façonné par Dieu à travers l'épreuve, l'appel, l'écoute, l'obéissance. Ainsi, il ne sera plus un fugitif, mais un envoyé. Il ne sera plus quelqu'un qui fuit, mais quelqu'un qui va à la rencontre, qui va de l'avant. Il n'essaiera plus de se sauver lui-même, mais il va sauver les autres, leur montrer un chemin. Tout ça par la force de l'Éternel et l'obéissance à cette parole. Par la confiance aussi, et c'est le point culminant du passage, la confiance et la conscience aussi, la prise de conscience, que dans cet entre-deux, et pour lui tel qu'il est, Dieu est là. Un Dieu qui voit, un Dieu qui connaît, un Dieu qui entend et qui agit parce qu'il est fidèle. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas Moïse. Et l'événement raconté ici et garde son unicité dans l'histoire du peuple de Dieu. Mais peut-être que, comme lui, nous sommes dans l'attente d'une direction de la part du Seigneur, d'une intervention peut-être. Et encore une fois, j'insiste sur ce point, peut-être en tant que communauté, simplement dans l'attente que Dieu intervienne pour qu'on puisse reprendre la vie normale. On discutait tout à l'heure, quelle va être la normalité après le Covid ? C'est une grande question. Elle sera peut-être moins semblable, différente de ce qu'on a connu. Mais c'est l'attente que Dieu intervienne, l'attente de savoir quelle est la suite, qu'est-ce qui va arriver, quelle va être l'issue d'une relation, d'un parcours d'études. Et dans cet entre-deux-là, Dieu est présent, il nous connaît, il entend et il voit nos cris, nos aspirations. Et il a préparé, à travers notre itinéraire de vie, une suite et il nous adresse un appel. Alors, plutôt que de focaliser en permanence sur ce qui vient, ce qui aura demain, et si nous nous arrêtions vraiment pour prêter attention à ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Il y a peut-être un message, je me retiens parce que c'est un sujet qui me travaille beaucoup en ce moment, il y a peut-être un message pour l'Église aujourd'hui, dans ce temps de Covid. Une interpellation peut-être à se repentir de certaines choses, non pas pour se mortifier, mais pour changer de direction dans notre regard, ou pour être renouvelé, restauré, ressourcé, je ne sais pas. C'est une vaste question à chacun de se la poser. Et si Dieu, personnellement, était déjà en train de nous adresser un appel à nous aussi, alors peut-être pour nous mettre à son écoute, nous pouvons lui prêter cette triple attention, écoute de sa parole, comme une parole qui nous est adressée par ce Dieu vivant, avec le désir de nous laisser, d'être prêt à nous laisser détourner pour être emmené ailleurs, croire qu'il veut nous dire quelque chose, qu'il nous parle. Attention à ceux qui nous entourent, ceux avec un X et puis les événements aussi. Où suis-je ? Qu'est-ce qui se passe autour de moi ? Et quels sont les cris des gens autour de moi ? Autour de mon église, autour de ma vie ? Qu'est-ce que ça me fait ? Attention aussi à ce qui résonne en nous, quel élan, quel désir, quelle aspiration. Que nous puissions sonder toutes ces choses, à la fois dans la prière devant Dieu, mais aussi, je le crois, dans le dialogue avec les autres. Il est important de pouvoir partager avec des frères, avec des sœurs, ces choses-là, et de demander à Dieu de nous éclairer. Et je finis avec un mot de témoignage. Je sais que l'église de Lyon, donc, dans laquelle je suis pasteur depuis 8 ans, a connu après une période très active et il y a quelques années une sorte de traversée du désert. Tout d'un coup, c'est un peu le flou. Où on va, qu'est-ce qu'on va faire ? Et il faut, vous savez, dans une église, il faut forcément faire. Toujours, 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 toujours. En tout cas, c'est un peu le mouvement qu'on a. Et je crois que le Seigneur a permis que l'Église se dise, on va se mettre en prière, on va écouter ce que Dieu nous dit là aujourd'hui. Et ça a duré un an, deux ans d'écoute, de prière, d'études bibliques, voilà, et de non-décision. Et puis, dans ce temps d'écoute, quelque chose est monté, des paroles, des appels, une petite voix qui nous invitait à nous ouvrir à l'autre, à l'extérieur, voire plus large. Et un jour, un appel de la Fédération protestante est arrivé, nous demandant si nous étions prêts à accueillir des familles de réfugiés d'Irak. Et ça a été la rencontre entre une interpellation, une circonstance, des paroles venues de Dieu et un désir, un élan dans les cœurs. Et depuis donc 6 ans, la communauté s'est mobilisée pour accueillir plusieurs familles. Alors, il n'y a rien de magique et de surnaturel, un témoignage, qui m'encourage, qu'il puisse aussi vous encourager. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles, ouvrons nos cœurs et que l'Esprit du Seigneur nous éclaire. Amen.